Donc, que faire de ce temps? Alors, moi, je propose plusieurs pistes. Premièrement, de dire que le célibat en lui-même n'est pas une fin en soi. Et c'est vrai que dans l'Église, on a l'habitude de considérer qu'il y a deux vocations, la vocation consacrée et la vocation au célibat consacré et la vocation au mariage. Mais je vous dis ça parce que de plus en plus, bon, en tout cas j'ai été voir sur des sites, au féminin.com par exemple, alors au féminin.com, tu peux donner, c'est bon. Et je voulais voir ce que j'ai trouvé. Personnellement, témoignage, je suis célibataire depuis 2 ans et j'avoue que le célibat est avant tout, pour ma part, un art de vivre. Le célibat désigne avant tout les possibles et laisse la place à l'inventivité, à la créativité. Tout reste ouvert, il est désormais possible de réaliser ses rêves secrets les plus fous. Voilà, au féminin.com. Dans la même lignée, le célibat, c'est l'autonomie, le goût de la liberté retrouvée, la délivrance en somme. Il est vrai que j'ai beaucoup de mal à sortir de mon statut de célibataire ou de solo pour cette raison principale. Bah oui, c'est sûr, si c'est la liberté retrouvée, si on voit ça comme ça, oui. Donc, je dirais tout simplement une chose, la liberté, il n'y a que ça de vrai. Bon, ensuite on en reparlera dans 10 ans. Mais juste pour vous dire que progressivement, je sens que dans la société, il y a comme une manière de voir, au fond, est-ce que le célibat n'est pas une troisième voie? Voilà, c'est venu, alléluia. Donc, il faut bien prêt, mais oui, droit et prêt. Bon, bref, ça marche quand ça veut. Donc, voilà. Est-ce que c'est pas une troisième voie? Voilà. Tu vois, ça le fait plus. Et alors, pour nous, en tout cas, je pense que c'est important de dire, tel que l'Église le voit, c'est pas une troisième voie dans le sens où, derrière cette manière de troisième voie, il y a l'idée de, le non-engagement est une liberté et d'avoir devant soi l'éventail des possibles. Et je trouve que, et c'est ce qui est dit dans le texte lui-même, hein, la liberté retrouvée, voilà, le célibat, la liberté retrouvée. Et comme je le marque un peu dans l'introduction, je crois que c'est l'inverse. C'est pour nous, au contraire, la liberté, c'est une liberté pour... C'est une liberté pour quelque chose. C'est une liberté qui est, d'une manière ou d'une autre, finalisée. Et donc, du coup, c'est l'exercice de la liberté qui me rend libre. C'est pas le non-exercice, c'est pas le non-engagement qui me rend libre. Avoir devant soi l'éventail des possibles, c'est vrai, je peux partir demain, hop, clac, je prends un billet, hop, et puis je vais n'importe où. Bon, mais le fait d'être seul offre cette possibilité, cette facilité. On n'a pas besoin de se préoccuper, est-ce que l'autre est libre, est-ce qu'il n'est pas libre, etc. Mais derrière ça aussi, moi, ce qui me fait un peu, qui me taquine dans cette vision du célibat, comme un en soi, au fond, comme une finalité, comme un but, c'est de voir aussi la relation comme une menace. Et l'autre est là, mais l'autre me dérange. Et au fond, être célibataire, c'est être libre et ne pas avoir, un fil à la patte. Et je trouve que derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qu'on peut le penser. C'est non seulement de voir la relation comme une menace, mais aussi de pas découvrir qu'au fond, que dans notre vocation est faite pour le don. Et le fait d'avoir une vocation qui est faite pour le don, parce que nous pensons aussi que l'homme est à l'image, à la ressemblance de Dieu, l'homme à l'image, à la ressemblance d'un don et de la communication d'un don. Et du coup, ce qui nous rend heureux, c'est de rentrer dans cette logique de don. Ce n'est pas ce forme d'enfermement, vous voyez. Je suis très autonome. Je suis très autonome, ok, oui, mais très seul. Très seul, et donc, je me rappelle comme ça, un autre témoignage, c'était une jeune femme comme ça qui va, elle va au cinéma, il y a un truc qui la fait éclater de rire, elle se tourne vers son voisin, comme souvent on fait quand on va à plusieurs au cinéma. Elle tourne vers son voisin pour partager, t'as vu comme c'est marrant, etc. Si ce n'est que son voisin n'a, bon, elle peut rien dire parce que son voisin, il a aussi une voisine. Donc du coup, ça n'allait pas le faire. Donc, et elle s'est dit, je me suis trouvée toute seule, toute bête, à rire toute seule, parce que voilà, j'avais personne avec qui rire. Et je trouve que derrière ça, c'est comme c'est important de découvrir, et ça l'Église insiste beaucoup, que nous sommes faits pour la relation, nous sommes faits pour la communion. Et cette communion, au fond, et c'est ça qui nous rend heureux. Donc, juste pour un peu de voir, au fond, que le célibat n'a de sens que dans un rôle d'une communion qui est au service de l'expression de l'amour. Il reste encore une chaise devant. Alors, que faire de ce temps en solo, ce temps où vous êtes seul, ce temps où vous n'avez pas d'histoire, pas de relation amoureuse, qu'en faire? Premièrement, on se situe plutôt dans le cas d'une rupture de relation amoureuse, ou bon, de relire ce qui s'est passé. Je dis ça parce que parfois, on voit des personnes qui enchaînent un peu les histoires avec justement la peur de la solitude, et qui fait que ils n'arrivent pas vraiment à se... ils se précipitent de bras en bras. Alors, je tirais pas mal de choses d'un livre du père Pascalide, que vous connaissez peut-être, qui est un père de la communauté de l'Emmanuel, hein, célibataire, osait le mariage, aux éditions Saint-Paul. Et bon, il y a pas mal de témoignages là-dedans, et c'est assez bien fait. En tout cas, je le recommande si vous voulez approfondir la question. Justement, cette question d'accepter aussi la solitude, d'accueillir cette solitude, un témoignage. Jusqu'à 35 ans, j'ai vécu de conquête amoureuse en conquête amoureuse. Je cherchais à plaire. Dès que mon cœur était vacant, il était occupé à penser à une nouvelle femme. Mais je n'étais pas heureux. Dès qu'une femme cédait à mes avances, je pensais au moment où elle me décevrait et où je la quitterais. C'est sympa, oui. Donc, un jour, j'ai compris que toute ma tristesse venait de ce que j'étais centré sur moi. Alors, il faut se décentrer de soi, se placer face à Dieu et face aux autres. Et je trouve ça très beau de dire, au fond, le temps qui vous est donné de célibat, de non-relation amoureuse, de solo, voilà pour dire ça, parce que peut-être le mot célibat fait peur, c'est un temps aussi où vous êtes amené, au fond, à découvrir et à travailler sur vous-même et à tirer les leçons du passé, à faire une relecture. Et à faire une, quand on dit relecture, c'est-à-dire pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi moi-même je me suis embringué dans cette histoire amoureuse à laquelle peut-être j'ai mis fin, pourquoi ça n'a pas abouti, pourquoi je n'ose pas, est-ce que c'est une question. Et cette relecture, moi je vous invite à la faire avec d'autres, c'est-à-dire ce n'est pas tout seul qu'on arrive à faire cette relecture. Je pense que c'est le fait d'être accompagné par quelqu'un de bienveillant, je le mets un petit peu après, c'est ça qui va vous aider aussi à découvrir en vous ce qui peut être de l'ordre des peurs, tout simplement, de l'ordre du manque de confiance en soi. Oui, parce que c'est sûr, si au bout d'une fois, deux fois, où vous avez été largué, entre guillemets, c'est vrai que parfois, on peut se dire, mais qu'est-ce que j'ai? Ou alors, une fois, deux fois, vous avez tenté, et puis vous avez vu qu'en face il n'y avait pas de répondant, ben vous vous dites qu'est-ce que j'ai quoi, qu'est-ce qui se passe avec moi, et c'est vrai que parfois il y a une sorte de manque de confiance qui peut arriver, et alors que vous savez très bien, même si vous avez des belles perspectives professionnelles, etc., que c'est pas les perspectives professionnelles qui vous rendront heureux ou heureuse. Ça vous fera un beau CV, etc., c'est bien, mais c'est pas le but de votre vie, au fond, vous sentez bien qu'il n'est pas là. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas encore achevé, qui n'est pas encore plein, qui n'est pas encore réalisé. Et donc, ce que j'ai marqué là, c'est tirer les leçons, et puis se replacer face au but de sa vie, face à ce qui nous rend heureux. Où sont les lieux où je me donne? Où est-ce que je me donne? Où est-ce que je me donne, et où est-ce qu'au fond j'ai... au fond, ce temps du célibat, c'est aussi le temps, le combat pour les vraies valeurs. C'est-à-dire, se recentrer sur l'essentiel. Se recentrer sur l'essentiel en faisant attention au déni. Parce qu'il peut y avoir aussi une forme de déni, on voyait, je vous lisais ce témoignage où on voyait un jeune qui va de bras en bras, etc., et qui, voilà, qui a extrêmement peur de la solitude, parce que la solitude peut-être le renvoie à lui-même et est-ce que, moi-même, j'accueille cette solitude comme une alliée. J'accueille cette solitude comme un recentrement sur ce qui est important. J'accueille cette solitude aussi comme sur ce qui sur les talents que j'ai pu recevoir, sur les grâces que j'ai pu recevoir. Ou aussi j'accueille cette solitude comme un lieu de un temps de travail sur moi-même. Hein, parce que évidemment le fait de ne pas rentrer ou d'être seul ou d'avoir enchaîné des expériences amoureuses décevantes ou douloureuses, font que à un moment donné, on se dit en quoi j'ai quelque chose à modifier. Donc prenez ce temps qui vous est donné pour ceux d'entre vous qui sont dans cette situation, prenez ce temps comme une grâce, non pas comme un poids, mais vraiment comme une grâce, de vivre positivement, d'un temps de travail sur soi, mais avec la grâce de Dieu et dans l'espérance. Hein, ça, je crois que c'est je crois que c'est quelque chose de très très important, parce que sinon on va. Mais c'est aussi, donc, si c'est un temps pour revenir aux fondamentaux, c'est aussi un temps pour peut-être se poser des bonnes questions par rapport à sa propre vocation. À quoi le Seigneur m'appelle? Quelle est ma vocation? Ce pourquoi je suis fait? Comme chrétiens, nous avons un regard, on veut aussi avoir un regard de foi sur les événements, sur les personnes, sur ce qui nous arrive. On n'a pas simplement un regard psychologique, on a un regard de foi. Et donc, de se dire, d'être au clair avec sa vocation et dans son cœur. D'où c'est le temps aussi de l'accompagnement. Et ça, je crois que, moi, j'y crois beaucoup, l'accompagnement spirituel. Peut-être un jour, on parlera plus de ça. Parce que si vous êtes seul, parce que ce qui est difficile avec cette situation-là, bon, il y a la bonne copine, il y a les potes, etc. Mais c'est pas avec eux que je vais pouvoir parler de cette solitude que je ressens. C'est pas avec eux que je vais pouvoir parler de l'échec amoureux que j'ai vécu et qui m'a laissé au 36e dessous. Parce que j'ai donné le plus intime, parce que je me suis livré, parce que j'y ai cru à fond, parce que j'étais... Et parce que c'est la bonne copine ou les potes, etc. Ils n'ont juste pas les clés pour vous aider. Donc prenez ce temps comme un temps d'accompagnement, vraiment vous faire accompagner, de vous faire coacher. On dit coaching maintenant, mais c'est la version laïque de l'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel, c'est justement, c'est à la lumière du Seigneur, de l'Évangile, parce que si vous êtes dans une démarche de foi, mais aussi à la lumière de votre humanité, de voir où est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur vous invite à travailler, où est-ce que vous êtes, par exemple, si vous sentez que vous êtes un peu recroquevillé sur vous-même, vous êtes dans vos peurs, etc. Mais est-ce que c'est pas le lieu aussi d'autres formes d'engagement? Un engagement associatif, un engagement caritatif, un engagement dans l'amitié, hein, on y viendra tout à l'heure. Voilà, pour vous donner juste un exemple, hein. Tous les temps sont des temps favorables. Il n'y a pas un temps, on peut dire, c'est vraiment la tuile qui m'est tombée dessus. Donc, nous croyons que c'est le carpe diem chrétien. Hein. Carpe diem, vous savez bien, c'est les Grecs qui ça nous vient des Grecs, hein, de la philosophie grecque. C'est cueillir le jour. Hein, voilà, carpe diem, c'est le carpe diem chrétien, c'est-à-dire de découvrir dans ce temps qui vous est donné une grâce qui vous attend et une bénédiction et une promesse. Je conçois que c'est pas toujours facile, ça, j'ai bien le. Mais on n'a pas qu'un regard psychologique sur notre vie, parce que on peut être vite tenté par la désespérance ou au contraire la fuite en avant. On verra tout à l'heure. Donc au fond, c'est le décider de la manière de se donner. Hein, donc décider de la manière de se donner, être au clair avec sa vocation et surtout éviter éviter les compensations, les fausses compensations. Hein, je pense à tout ce qui peut être de l'ordre du flirt, tout ce qui peut être de l'ordre de l'activisme, de l'obsession pour se marier, parce que bien sûr, t'as les bonnes copines, ben voilà, tu vois, tu reçois les faire-part les uns à la suite des autres, il y a tous les noms sauf le tien. Donc, voilà, tu te dis, bon, so what, quoi, ça va finir quand? Non, ben, c'est sûr, ben, on peut pas ne pas penser comme ça, c'est... Bon, alors, sauf si vous êtes appelé au Carmel, alors du coup, vous vous réjouissez, au contraire, voilà, si vous avez fait, vous êtes au clair avec vos vocations, vous dites, mais non, c'est vraiment la vocation à la vie, à fonder une famille, et donc, du coup, je trouve que c'est, attention à ces compensations stériles, que ce soit dans le boulot, la fuite dans le travail, parce que c'est sûr que t'as personne qui t'attend à la maison. T'as personne, sinon maman ou papa, qui vont te demander des nouvelles, mais bon, c'est pas très, voilà, c'est sympa, mais c'est pas pareil qu'un chéri, donc, ou une chérie, donc c'est, et donc du coup, dans ce livre-là, justement, il y a la question de la fuite dans le travail, un témoignage. Tim est brillant. À 35 ans, on lui fait une proposition très alléchante de travail à l'étranger. Il hésite et prend conseil auprès d'un conseiller en orientation qui n'y va pas par quatre chemins. Celui-ci lui dit « Si vous acceptez ce travail, vous partez pour 5 ans à l'étranger. Vous serez absorbé par votre profession full-time, sautant d'un avion dans un autre. Après, vous aurez un CV tellement enviable que tous les chasseurs de tête fantasmeront dessus. Mais il y a une conséquence à cela. Quand vous reviendrez en France, vous aurez 40 ans. Et j'ai cru comprendre que pour vous, vous marier, fonder une famille, c'est important. Vous voulez attendre jusque-là ? » Tim sort de l'entretien, sonné comme un boxeur qui vient de recevoir un direct menton. Il y va fort, ce coach. C'est vrai que la question de la place du travail, je trouve que il peut y avoir aussi une fuite dans le travail. Et puis, c'est pas votre entreprise, au cas où vous ne l'ayez pas remarqué. Non, surtout non. Recentre-toi sur l'essentiel. Personne ne va vous dire ça. Si vous pouvez installer le lit de camp dans votre bureau, on vous mettra une douche comme ça à côté. Personne, voilà. Là aussi, il faut être au clair. La place qu'occupe mon travail me laisse aussi un temps pour les amitiés, un temps pour la vie sociale, un temps pour moi. Parce que c'est vrai que quand personne vous attend chez vous, la tentation facile, c'est de fuir dans le travail. Donc l'accueil de la réalité. Ensuite, la question de quels sont mes talents, c'est-à-dire, mais aussi quelles sont mes blessures. La nécessité de relire son histoire, là, j'en suis au temps de la construction et de la connaissance de soi. Attention de ne pas reproduire les échecs. Prendre conscience de sa manière de fonctionner. Il y a 3 pièges à la suite d'une rupture. La fuite de ses sentiments, c'est-à-dire, ça ne me fait rien, je suis complètement détaché. La fusion et non l'amour, c'est-à-dire qu'on est au contraire dans une démarche tellement fusionnelle avec l'autre que c'est pas vraiment l'amour, parce que l'amour s'oppose à la fusion, comme on l'a vu en septembre, parce que précisément l'amour demande l'altérité, que chacun soit vraiment vraiment lui-même pour pouvoir avoir une relation, alors que la fusion c'est scotcher, c'est ne devenir plus qu'un, mais en évacuant aussi les individualités. Et le troisième piège, c'est la colère qui accuse, c'est la faute de telle personne, si je suis dans cette situation-là. À cela, opposer l'expression des sentiments. J'exprime mon sentiment, je dis ce que je pense, même si peut-être dans mon éducation familiale, l'expression des sentiments n'était peut-être pas à la mode, c'est aussi l'expression des sentiments. L'acceptation d'un deuil ou d'une perfection, parce que ça c'est intéressant ça, c'est que dans la fusion, dans un amour fusion, on veut que l'autre soit comme moi quelque part, on recherche une perfection, on recherche un amour comblant, mais c'est pas ça l'amour, le véritable amour. l'autre n'a pas à vous combler. Tout simplement parce que c'est mettre l'autre à la place de Dieu. Et visiblement, à un moment donné, il verra qu'il ne tiendra pas la distance. Et donc, il se découragera, ou vous lui montrerez qu'il ne tient pas la distance, du reste. Mais du coup, c'est le temps aussi de faire le deuil d'une perfection. Je crois que parfois, ceux qui s'opposent à se lancer dans une relation amoureuse, c'est un perfectionnisme. Et moi, j'aime bien ce texte de Jean-Paul II, en 2001, ça remonte déjà un petit peu, il a écrit une lettre une lettre apostolique s'appelle « Pour le nouveau millénaire qui commence ». Et à un moment donné, dans cette lettre, il dit, il parle de la spiritualité de communion. La spiritualité de communion, il dit, un des obstacles à la communion, c'est-à-dire à l'amour, c'est le perfectionnisme. Chercher quelqu'un de tellement parfait, tellement... ça me fait penser à cette blague de Schumann, qui un des fondateurs de l'Europe, qui était célibataire. Et on lui demandait, vous avez jamais pensé vous marier ? Il dit, oui, mais j'ai aucun problème, chercher la femme parfaite. Ah bon ? Et vous l'avez trouvée, oui. Mais elle cherchait l'homme parfait. Donc, oui, ce piège-là, de dire, oui, mais en fait, je trouverais toujours mieux. Moi, ben, t'as vu ce défaut-là, t'as vu, il y a des petits tics. Alors, c'est vrai que s'il est comme ça, complètement débranché, c'est un peu problématique, je crois qu'on. Moi, j'accompagne un couple vers le mariage qui est assez intéressant. Non, parce que. Alors, attention, j'espère qu'il n'est pas dans la salle. Non, je pense pas. Non, ils sont vraiment très différents. Et leurs amis leur ont dit, on est vraiment étonnés même que vous soyez ensemble. Donc ils sont allés cash, quoi. Mais je trouvais, c'est vrai qu'au prime abord, elle est très, très enjouée, très parisienne, etc. Lui, c'est un exploitant agricole, beaucoup plus, plus taiseux, plus... Mais je trouvais ça très beau, leur démarche, parce que déjà, il y a eu un moment donné, un amour, quelque chose qui a fait que. Et au fond, elle disait, vous n'avez pas idée de combien l'autre, qui, à première vue, ne remplissait pas toutes les cases, combien l'autre m'apporte. Et je découvre dans cette personne qui est beaucoup plus discrète, qui n'est pas le type... Parce qu'il y a des très bons candidats et des très mauvais élus aussi. Hein, je ne sais pas si vous avez vu ça. Hein, donc, des types vachement, vachement charismatiques... à l'aise au public, etc. Bon. Et ensuite, on est très déçus. Donc, non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, quelque part, elle le disait elle-même, mais je vais de surprise en surprise, et je découvre en lui, et lui-même, et je trouve ça très beau, c'est grâce à cette relation, lui-même aussi découvre en lui des tas de talents, des tas de charismes. Donc, attention à ce perfectionnisme qui nous tend des pièges, et qui nous empêche d'aller vers l'autre, hein, et qui nous fait, voilà, si c'est pas, je crois que c'est un aspect important. Et passer de l'accusation, c'est un des pièges, comme j'ai dit, de l'accusation, passer au pardon. C'est vrai que si quelqu'un vous a fait mal parce qu'il y a des ruptures amoureuses ou des personnes qui vous ont laissé entendre que ou etc etc, mais qui en fait ont joué avec vous tout simplement, c'était du flirt pour pas. C'est sûr que c'est mieux d'arriver à deux dans une soirée, dans un dîner, tout de suite ça pose. Et c'est vrai. Et en même temps, je crois que c'est être au clair. On le verra peut-être à la fin, mais être au clair avec ça. Ne pas laisser dans l'ambiguïté une relation. Ne pas laisser dans l'ambiguïté. C'est voilà, des petits... On dragouille un peu, des petits baisers comme ça, à l'arraché, mais on ne s'est pas vraiment dit, mais on ne le dit pas vraiment, etc. Ça ne vous fait pas de bien, ça ne vous construit pas. Et c'est quelque part jouer avec l'autre. Et je crois que de ce côté-là, soit on avance et on avance dans la connaissance mutuelle, mais on n'est pas dans le flirt, on n'est pas dans la dragouille, on n'est pas dans le truc qui est pas clair. Vous voyez, dans le truc où on se dit mais qu'est-ce que recherche l'autre, et on laisse des illusions et en fait non, les trucs. Et surtout le problème, c'est que la question affective, le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais la question affective, bien souvent, ne laisse plus pas assez la place à l'intelligence, pas assez la place à la raison. Donc du coup, les émotions submergent la raison et empêchent peut-être d'y voir clair. Donc en tout cas, un conseil à vous donner, c'est si vous êtes dans une situation comme ça, un peu ambiguë entre deux, de clarifier. Clarifier parce que ce sera un acte d'amour pour vous et pour l'autre. Voilà. Ensuite, le temps de la purification de l'amour. Passer des fausses conceptions de l'amour, j'en ai dit un petit mot, que c'est l'amour est un état, que l'amour est irrationnel, que l'amour est comblant, que l'amour est romantique, narcissique. Le mythe de l'âme sœur. Le mythe de l'âme sœur, ça ne veut rien dire, l'âme sœur. Il y a des tas de mythes qui circulent là dans le mythe de l'âme sœur. La personne, voilà, je suis fait pour telle personne. On n'est pas fait l'un pour l'autre, on se fait l'un à l'autre dans tous les cas de figure. Et je pense que cette mythe de l'âme sœur, parce que si l'âme sœur se trouve au fin fond des Caraïbes, c'est un peu compliqué. Donc du coup, le risque de l'idéalisation, ça j'en ai parlé avec le perfectionnisme, donc purifier tout ça. C'est des choses où on purifie sa capacité d'aimer. Alors, je vous renvoie, je ne vais pas détailler davantage, mais je vous renvoie à ce que j'ai pu dire donc en septembre, donc et sur le site de SPNSP et sur le site de la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie, donc de voir au fond que l'amour, ce n'est pas un état, c'est un acte. Et ça, je crois que l'amour n'est pas de l'ordre de l'état. C'est-à-dire, une chose, c'est le sentiment amoureux. Autre chose, c'est aimer. C'est pas pareil. Le fait de dire que c'est un état, c'est-à-dire comme si quelque part je n'y pouvais rien. Or, ce n'est pas ça. L'amour, c'est quelque chose. J'ai marqué. On peut faire naître. On peut l'éteindre. On peut le grandir. On peut le diminuer. Donc je pense que c'est important de dire que quelque part on a prise sur cette dimension, sur la dimension amoureuse, on a prise dessus. C'est un acte de la volonté, c'est pas un acte simplement du ressenti. Alors ça, j'ai beaucoup développé ça là en septembre, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller y voir. Mais et en même temps, je trouve ça plein d'espérance, parce que si c'est un acte uniquement un état, bon voilà, je suis amoureux et quelque part je n'y peux rien, ça échappe à moi, du coup si je suis pas, je peux rien faire non plus pour le devenir. Et je trouve que au contraire, c'est important de découvrir que c'est un acte et que cet amour-là, c'est un amour qui implique la raison, c'est un amour qui implique l'intelligence. Il se fonde sur une connaissance de l'autre. Qu'est-ce qui me parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et donc, pour débuter, le fait de faire des connaissances, et du coup, ce temps de solo, ce temps de célibat que vous n'avez pas choisi, c'est un temps aussi, c'est le temps de l'amitié. C'est le temps de l'amitié, de l'amitié avec... le temps de la profondeur dans les relations. Vous voyez, le temps de... On n'est pas dans le zapping dans les relations, mais le temps de la profondeur. On a une bonne amie, on a un bon ami, voilà. On sait que... on va justement sur le temps de l'essentiel. Et de ce point de vue-là, on peut se poser la question, voilà, j'ai le désir de construire une relation amoureuse, mais aujourd'hui, quels sont les actes d'amour que je pose? Qu'est-ce que je pose comme acte d'amour aujourd'hui? Où est-ce que j'aime? Où est-ce que j'aime? En dehors de me centrer sur moi-même et que... tel Calimero, je suis l'incompris et personne ne m'aime. Mais aujourd'hui, où est-ce que... Parce que l'amour est un décentrement. Et vous savez, ce qui fait la beauté d'une personne, c'est pas tant la qualité du costume ou le maquillage, ou etc., etc. Ce qui fait la beauté d'une personne, c'est sa capacité de don et sa capacité d'aimer. Et de voir l'autre... en train de se donner, que ce soit pour l'organisation d'un week-end entre amis, que ce soit pour aider sa copine à préparer son mariage, que ce soit, etc. Mais on voit l'autre qui se donne. Où sont les lieux où vous aimez? Où est-ce que vous aimez aujourd'hui? Ça me paraît bon, à la fois évident et en même temps pas si simple à répondre. Parce que c'est ça qui va ouvrir la porte à un autre amour. C'est tout simplement que l'autre aura été séduit ou vous aurez été séduit par sa capacité de don. C'est pas simplement, on n'est pas séduit par une plastique, voilà, par un truc, bon, même si la plastique n'est pas désagréable, je suis d'accord. Mais, elle a son importance, c'est pas, ce qui fait la beauté de quelqu'un, c'est sa capacité de don. C'est le voir en action d'aimer. C'est le voir ne pas se regarder en train de se donner. Oui, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse si ce n'est vivre ça de façon privilégiée avec quelqu'un? C'est vivre. Parce que ce qui est important de dire que entre l'amour et l'amitié, il n'y a pas une différence de nature, il y a une différence de degré. C'est la même chose, l'amour et l'amitié. Si ce n'est que des degrés, alors que l'amitié, j'allais dire, elle est ouverte, on peut être ami de beaucoup de personnes, etc. Alors qu'au contraire, l'amour, c'est un amour privilégié. L'amitié a plus pour but, peut-être pas universel, mais en tout cas, de se répandre avec plusieurs autres personnes. Donc du coup, je trouve que c'est important de se dire que le fait d'avoir déjà des lieux d'amitié, des lieux d'amour où je me donne, où je pose des actes, où je me décentre de moi-même, où je ne me préoccupe pas de moi-même, de mon look, de est-ce que je plais, est-ce que ça enferme, ça rend pas heureux. Et je veux dire, ça n'attire pas. Je crois que ce qui attire, au contraire, c'est quelque part, ce qui attire, c'est se perdre. Vous voyez, se perdre dans le sens, ne pas se regarder. Parce que toujours, on trouvera un défaut. Ah oui, je regarde, j'ai un truc là, il faut que je perde. Alors, c'est surtout les filles, il faut aller au niveau kilo, il y a une grosse pression. Bon, de toute façon, idiote, c'est aberrant. Mais, vous voyez, et bon, ouais, vous avez compris. voilà, quels sont les actes d'amour que je pose là? Voilà, la solitude comme une alliée, voilà, pour purifier l'amour, ça on en a parlé. Le temps de l'amitié. Alors là, voilà, oser les relations à deux, diversifier les réseaux, savoir demander de l'aide, aller vers d'autres réseaux d'amis qui vous sont inconnus. C'est le temps de l'amitié. Là, voilà, parce que c'est justement ces amitiés-là vont être le lieu aussi de rencontres. De personnes avec qui je vais pouvoir construire quelque chose de plus durable. Hein, passer de l'amour, de l'amitié à l'amour. Alors, je dis, voilà, l'amitié, j'ai fait un topo en janvier sur l'amitié. Et donc, du coup, ça, je vous invite à, si ça vous intéresse, d'approfondir, c'est sur le site aussi, hein, uniquement sur la question de l'amitié. Donc à travers Aristote qui dit, je passe rapidement, mais ça demande la bienveillance, la réciprocité et un certain vivre ensemble, passer du temps avec l'ami. Hein, et du coup, il faut être attentif à voir les fausses amitiés utilitaristes. Tu as ton copain qui vient parce que tu as une voiture et lui n'en a pas. Hein, donc là, on est très vite amis. Voilà. Les amitiés unilatérales. Rien de pire de celui qui te supplie d'être son ami. Je sais pas si vous avez... Mais je veux que tu sois mon ami. Je veux être ton ami. Non, moi non. Donc, non, je sais pas si ça vous est arrivé, mais bon, donc voilà. Et attention aux amitiés mondaines qui construisent pas, superficielles, qui sont chronophages et vous apportent rien. Et qui vous construisent pas à l'intérieur. C'est le temps, vous voyez, le temps. Si vous êtes dans ce temps-là de sans relation amoureuse, c'est le temps de la profondeur. C'est le temps de l'essentiel. Hein, c'est le temps des rencontres essentielles. Moi, ça me paraît de plus en plus clair. Et qui est pas facile parce que la profondeur, c'est toujours un choix. C'est toujours un combat. C'est toujours un combat à la profondeur. Oui, c'est toujours un combat parce que surtout à Paris, vous avez 25 propositions, rien que ce soir, vous auriez pu avoir, voilà, des propositions longues comme ça. Bon. Et c'est pas si facile de faire le choix de la profondeur, c'est pas si facile de faire le choix de la solitude, de rester chez soi seul, et de, d'habiter cette solitude quelque part, de pas la fuir. Je pense que c'est quelque chose qui a travaillé en tout cas. C'est le temps aussi de la patience et de la liberté face au regard des autres. S'avouer à soi-même, voilà. Alors, voilà. Donc ensuite, voilà. Qu'est-ce que, où est-ce que vous en étiez? Voilà, c'est parti. J'ai sauté un truc. Donc aller vers l'inconnu, diversifier ses réseaux, oser la relation à deux profonde, etc. Passer de l'amitié à l'amour. Donc différence de degré, non pas de nature, c'est ce que je vous ai dit. Hein, l'altérité comme condition à l'amour, c'est l'autre, c'est pas la fusion, c'est pas le, même s'il peut y avoir un éblouissement, mais l'autre à être autre que moi, à le laisser autre que moi. Hein, et à quoi reconnaît-on qu'on est amoureux? Ça, c'est intéressant. À quoi reconnaît-on qu'on est, on est amoureux? Oui. Formé, oui.
Formé, il y en a qui voudraient que ce soit de l'amour.
Oui. Pas.
Les deux commencent par l'amitié.
Oui.
Oui,
oui, ah oui, mais ben, ça arrive beaucoup. Et la question, c'est la question est la suivante. C'est, je disais entre l'amitié et l'amour, faut pas. D'ailleurs, il faut. Alors surtout si c'est garçon-fille. Bon, on en revient un peu à des trucs un peu bateaux, sauf dans le cas du mariage pour tous. Alors, ça, d'accord, mais ça, c'est pas le thème de ce soir. Donc, mais bon, toujours est-il que. C'est-à-dire que si c'est une amitié, surtout quand c'est un garçon-fille, etc., il faut se dire que c'est une amitié. C'est-à-dire que c'est. Mais si l'autre commence à avoir des sentiments, je crois que forcément cette amitié, elle va se terminer. C'est ça qui est un peu difficile parce que si l'autre commence à avoir, c'est souvent comme ça. Pratiquement tous les amours ont commencé par des amitiés, sauf cas très particulier. Je veux dire, c'est pas. On voit pas un type qu'on n'a jamais connu nulle part comme ça, le coup de foudre, etc., mais sans même le connaître, ce sera aberrant même, ce serait même dangereux. Donc, je crois que bien souvent, quand on a des amitiés comme ça, garçon-fille, etc., naît dans le cœur de l'un forcément un désir d'aller plus loin, et l'autre n'a pas. Ben voilà. Moi, je sais pas si vous avez des réponses à ça, mais c'est souvent. C'est. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Du coup, c'est bien aussi de vérifier. Et, c'est bien de vérifier. Et puis, si ça fait plusieurs fois qu'on se plante, c'est bien parce qu'il y en a qui sont tout de suite amoureux, si tu veux. C'est les cœurs d'artichaut, quoi. C'est les cœurs d'artichaut. Ils sont hyper amoureux, ce qui est aussi inquiétant. Parce que s'il commence quelque chose, il n'est pas dit qu'il continue pas à être aussi artichaut. Donc du coup, c'est soi-même. Voilà, tu vois, c'est un peu l'invitation de se dire, si je trouve si facilement amoureux, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de belles jeunes filles sympathiques, bien, etc. C'est vrai. Est-ce qu'en moi il n'y a pas quelque part au plan affectif une maturité à trouver? Est-ce qu'il n'y a pas une petite immaturité affective qui fait que tout de suite voilà je laisse pas vraiment le temps pour l'amitié et je tombe tout de suite dans un amour et du coup j'ai des idées, elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela, elle m'a dit au revoir, mais si elle m'a dit au revoir certainement que elle est complètement folle de moi, des oui des trucs quoi, voilà, parce que on voit là tout de suite on voit la providence puissance 10, hein. Là tout de suite tout devient des signes. Hein, tout devient des signes. Hein. Voilà, bref. Il a pris le métro, moi aussi j'ai pris le métro le même jour. Bon, il se trouve que vous habitez tous les deux Paris, donc il est probable que le même jour vous preniez le métro. Donc bref, je plaisante, mais justement de dire, est-ce que c'est pas il y a peut-être une immaturité affective en nous qui fait que voilà, on est trop en demande quelque part. Ce trop en demande fait fuir, parce que c'est aussi la réalité. De voir quelqu'un tout le temps qui. C'est pas ça que je voulais vivre. En tout cas, c'est pas ce que je voulais vivre à cette étape de notre relation. Bon, alors voilà, c'est un, merci pour la question, parce que c'est, ça donne un, l'exemple, justement, d'un travail sur soi-même, d'un discernement, d'une manière de faire, donc d'un accompagnement. Voilà, on prend conscience de ces modes de fonctionner. Hein, vous voyez, mais bon, donc passer de l'amitié à l'amour, donc à quoi on reconnaît qu'on est amoureux? Ben, tout simplement, déjà, pour qu'il y ait amour, de même pour qu'il y ait amitié, l'amitié demande la réciprocité. Hein, ne serait-ce que l'amitié. Hein, et l'amour demande la réciprocité. Donc ça demande, pour qu'il y ait objectivement une possibilité d'avoir une relation amoureuse, d'abord que l'autre soit disponible, hein, parce que attention à ces amours impossibles avec des hommes mariés, avec des femmes mariées, etc. Bon, c'est pas ça, en tout cas, non, qui rend heureux, et puis bon, c'est de l'ordre du fantasme, mais c'est pas, voilà. Hein, d'avoir un désir commun, d'avoir, à quoi on reconnaît la différence entre l'amitié et l'amour, l'attrait physique, il y a un attrait sexuel pour l'autre, qu'il n'y a pas dans l'amitié, donc c'est ce à quoi aussi on distingue la différence entre les deux. Et puis, l'attrait physique, j'ai marqué, ça se travaille. Alors, ça veut dire quoi, ça se travaille? L'attrait physique, ça se travaille. On apprend à connaître l'autre. C'est vrai qu'en fait, est beau, c'est vrai, mais est beau, ou la personne est belle, au regard de celui qui est amoureux. Mais la personne, elle est vraiment belle. Et alors que l'autre d'à côté, c'est quoi ce laidron, ou voilà. Mais parce qu'on apprend à connaître l'autre, l'autre devient beau. Parce qu'on apprend à l'aimer, il devient beau. Tout simplement. Parce qu'on voit son cœur. Et on n'est pas dans la plastique, voilà. S'avouer à soi-même qu'on est amoureux, se donner les raisons de l'amour qu'on ressent ou que l'on ne ressent pas, hein, voilà, se donner les raisons, voilà, faire travailler son intelligence, faire travailler sa raison aussi, voilà, quelles sont les raisons objectives qui me poussent à, la patience, hein, attention à l'interprétation des signes, au providentialisme, j'en ai dit un petit mot, hein, et de l'amour à l'engagement, voilà, une progressivité, un travail sur soi. Déjà, on accueille la réalité, le temps de connaissance de soi, de purification de l'amour, le temps de l'amitié, passer de l'amitié à l'amour, et ensuite de l'amour à l'engagement. Au fond, commencer, voilà, on ressent quelque chose à déclarer quand dire ses sentiments sans se prendre un râteau. Donc, quand dire ses sentiments? Ben, c'est là où ça demande, je trouve, ça demande aussi une certaine finesse et une certaine travail de l'intelligence, et donc une certaine maturité aussi. On découvre, à travers le regard de l'autre, à travers les actes de l'autre, on découvre quand même qu'il y a peut-être quelque chose dans l'autre qui laisse poindre une possibilité d'amour, etc. Faire très attention aux personnes qui sont et qui peuvent décontenancer. Moi, j'ai vu souvent ça. Des personnes qui sont très généreuses, mais vraiment très généreuses, très affables, très données, etc., très, très attentionnées, mais qui éveillent en l'autre quelque chose dont elles-mêmes n'ont pas conscience. Donc, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tout de suite, à tensionner, tu veux que je t'aide, tu veux, etc., à te rappeler, à prendre de tes nouvelles, mais c'est un peu une deuxième nature pour ces personnes-là. C'est pas forcément qu'il y a le désir de faire souffrir l'autre. Alors forcément, si au bout de la troisième fois on demande de tes nouvelles, on prend ton 06, tiens, on va prendre un pot ensemble, etc., mais en fait, non, il y a rien du tout. Je veux dire, faisons attention à ce que l'on peut éveiller dans le cœur de l'autre. Ça, c'est aussi une responsabilité. Non pas qu'il faille être désagréable à tout prix pour être sûr de pas d'avoir qu'on nous fiche la paix, mais en tout cas d'être attentif à si on sent qu'on a peut-être cette tendance à être peut-être trop vite dans la relation, trop rapide dans l'amitié, etc., eh bien peut-être de travailler là-dessus pour éviter que l'autre justement se fasse des idées, etc. Qui doit déclarer le sentiment? Bon, l'homme ou la femme, bon, ça c'est Bon, c'est souvent l'homme qui déclare sa flamme, sa femme, pardon. mais oui, bon, ça c'est un peu une convention, mais bon. Et ne pas, voilà, c'est. Oui, non, c'est voilà. Alors, trois réactions possibles. Déclaration de l'autre. Déclaration de la flamme de l'autre. Il répond ou elle répond par l'affirmative. Et ça devient une priorité. Et donc là, je vous renvoie au topo de septembre, là, justement, la relation amoureuse, la construire, etc. Donc, il y a des tas de bouquins là-dessus. Donc, il répond par la négative, ou elle répond par la négative. Et veillez à ce que l'amour déçu ne devienne pas l'amour refus. On ne mourra plus. Ça, j'ai vu ça aussi. Hein. On ne mourra plus. Hein, j'ai tout donné, je suis allé très loin, etc. Et on ne mourra plus. Et attention à que l'amour déçu ne devient. Et donc du coup, on se ferme à l'amour. Et ça, c'est pas de Dieu. En tout cas, c'est pas dans une logique chrétienne quelque chose qu'on peut envisager comme une vocation au bonheur. Donc on se renferme sur soi, on se renferme sur son boulot. Toutes les formes de compensation possibles et imaginables. Hein. La réponse est dubitative, incertaine. Et risque de vivre au conditionnel donc d'une ambiguïté. Ça, je vous en ai dit un petit mot. Ne pas laisser ces relations, ce clair obscur, ne pas le laisser en place, parce que c'est certainement quelque chose qui ne va pas vous construire. Et puis les engagements, de penser que tous les engagements que vous prenez, au fond, sont des engagements qui vous préparent aussi à l'amour. Qui vous préparent. Tous les lieux de don de vous-même, je vous en ai dit un petit mot, sont des lieux où vous pouvez être fécond, qui vous permettent une fécondité, qui vous permettent de porter du fruit. Voilà, donc je pense que ce passage de l'amour à l'engagement, de ne pas rester simplement dans une relation, parce que je vois ça aussi, on est bien ensemble, on s'est dit qu'on s'aimait, etc., mais on est juste bien ensemble. Et si je bouge quelque chose, on a peur que tout s'écroule. Ben, je crois que c'est pas non plus quelque chose. À un moment donné, on veut aller plus loin dans la relation. On veut construire. Hein, on veut se projeter. Donc, et c'est assez logique. Et j'ai fait donc un peu d'auto-promo. Ce célibat, signe de l'amour. Donc, vous avez compris. C'est-à-dire de se poser la question. Si d'une manière ou d'une autre, je suis dans l'état de célibataire, est-ce que aussi, il n'y a pas un appel à une vie, que ce célibat devienne consacré. Et d'une manière ou d'une autre, comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Comment on fait la différence entre un amour dans le célibat consacré et un amour dans le mariage? C'est que l'amour dans le mariage, c'est un amour privilégié. Et que, comme je l'ai dit, dès qu'on construit quelque chose, ça devient une priorité. L'amour dans la vie consacrée, sacerdotale, religieuse, c'est un amour à visée universelle. C'est un amour vraiment qui c'est chacun qui devient privilégié. C'est l'amour de Dieu qui ensuite fait qu'on devient frère et sœur universel. Et dans son cœur, il faut aussi voir dans son cœur, mais est-ce qu'il n'y a pas ça qui habite aussi dans mon cœur, d'avoir un désir de me donner à tous aussi, et d'être cette humanité de surcroît qui aussi donnée au Seigneur est aussi donnée à ses frères. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Alors, est-ce que c'est pas dangereux de dire, voilà, au fond, j'enchaîne les déceptions amoureuses, et donc, est-ce que le Seigneur m'appelle pas à me consacrer? C'est ça que tu veux, un peu ça que tu veux dire. C'est une question, ouais. Oui, c'est un peu la question. Alors, ça, évidemment, ça, c'est pas, en tout cas, quand on reçoit dans une communauté un garçon, une fille, etc., évidemment, la fille qui se réfugie au couvent parce qu'elle a eu un dépit amoureux, bon, ça a pu exister dans les films auparavant, mais bon. Aujourd'hui, c'est clairement pas une option. C'est-à-dire que si on dit, Mais autre chose est ça, autre chose est de dire, tiens, il se trouve, je vais vous donner mon témoignage, comme ça, ce sera peut-être, j'espère, un peu plus clair. J'ai eu comme une reconversion dans ma vie en faisant une retraite. Bon, je suis une famille catholique assez traditionnelle, classique, voilà. Et j'ai eu une reconversion vraiment dans une retraite, une prise de conscience que l'amour de Dieu, que l'évangile, c'était une réalité, que voilà. Et donc, bon. Et en même temps, et donc de plus en plus, la vie spirituelle a pris de l'importance dans ma vie. Et en même temps, il n'y avait pas de il y a une relation plus ou moins ambiguë, voilà, avec une fille, voilà, c'était pas très clair, voilà. Donc, voilà, il y avait ça, et en même temps un désir dans mon cœur de me donner de plus en plus à Dieu. Ben, j'ai fait dans un accompagnement, parce qu'on est accompagné avant de rentrer dans une vie religieuse consacrée quelle qu'elle soit, il y a un accompagnement, mais en faisant, et avec un grand désir d'absolu dans mon cœur, et en faisant le lien entre, j'ai fait moi-même le lien entre les, j'ai 27 ans, j'ai une carrière, disons une carrière, disons un travail, je pourrais tout à fait commencer une vie amoureuse, une vie de famille, etc. J'ai tout pour ça. Et du coup, beaucoup ont pleuré une fois que j'ai annoncé mon entrée au monastère. Mais ça a été. Je me suis dit, est-ce qu'au fond, le Seigneur m'appelle pas? Je me suis posé la question. Alors, j'ai eu le malheur de la poser aussi à mon père spirituel. Il m'a dit oui. Alors elle m'a dit, ben oui, vous faites bien de vous poser la question, parce que je pense aussi que le Seigneur vous appelle. Mais tu vois, c'est plutôt la rencontre des deux choses. C'est d'un désir qui va croissant et d'une situation de fait où on se dit, voilà, est-ce que c'est pas un temps de disponibilité?
Au tout début, vous disiez, c'est tabou de dire célibataire.
De dire, c'est tabou de dire que de voir le célibat comme une troisième voie. Voilà.
Vous aviez dit que le mot célibataire était tabou, donc vous alliez utiliser le mot solo.
Oui, alors célibataire, ah oui, d'accord, c'était oui. Parce que célibataire n'est pas reconnu, j'allais dire, dans la société comme. C'est plutôt reconnu négativement. Malheureusement, c'est plutôt reconnu négativement. C'est comme de ce que je peux voir et voir avec une certaine culpabilité. Quand on commence à avoir 40, 45 ans et qu'on est célibataire, je sais pas ce que c'est un peu un ressenti, mais il y a comme quand on est plutôt jeune, bon, c'est peut-être pas un sujet, mais plus on avance en âge, plus ça devient un sujet. Et plus ça devient une pression aussi de l'entourage, et plus il y a une forme d'aspect peut-être négatif, me semble-t-il en tout cas, de cette dimension de célibataire, et comme quelque chose qui ne serait pas accompli, quoi, comme quelque chose, voilà. C'est une question de nom, de mots plutôt solo, voilà, qui reviennent la même chose que célibataire, mais bon.
Et du coup, sur l'entourage, comment gérer cet entourage?
La pression de l'entourage. La pression de l'entourage, oui, ça c'est sûr, quoi. Qu'on veut absolument te présenter, les personnes. D'abord, je réponds à la question. Comment gérer la question de la pression de l'entourage? Et alors, toi, c'est pour quand? C'est beaucoup plus fort que. J'en ai parlé, quand on commence une relation amoureuse, il faut faire attention aussi à ça. Parce que la pression de l'entourage, affectueuse, je veux dire, une pression. Amicale, affectueuse, plein de bienveillance, mais qui vous laisse pas libre. Je pense que ce qui aide à gérer la pression de l'entourage, ce sera entre autres le fait de savoir soi-même où on va, c'est-à-dire que d'être assez clair et peut-être de l'expliquer à l'autre, ce qui est pas forcément facile de dire. Ce temps que je vis, voilà, c'est un temps peut-être de discernement, j'ai besoin de ce temps-là pour me construire, j'ai besoin de ce temps-là, et de demander à l'autre, tout simplement, de ne plus poser la question. Je veux dire, je pense que de ce côté-là, c'est. Voilà, c'est. Et soi-même d'être assez délicat pour. quand on voit une personne dont on sait qu'elle est en souffrance, parce que voilà, elle souhaiterait fonder un foyer, et puis ça ne vient pas, etc. Ne serait-ce que quand on annonce son mariage, que quand on, bon, de pas avoir un bonheur un peu insolent, triomphaliste, qui t'en met plein la vue, et toi tu restes complètement le soir, tu pleures dans ton lit, quoi. Mais je pense que il y a aussi une délicatesse. Il y a aussi une délicatesse à avoir et dans la manière de poser les questions, dans la manière de ne pas bon arriver avec ses gros sabots. Et toi, c'est quand ou alors si on commence quelque chose, déjà, ben alors vous allez vous marier quand, etc. Ça c'est voilà. Tu voulais poser une autre question. Oui. Oui. Ah, du rêve à la réalité. Passage du rêve à la réalité. Non, mais merci, très bonne question. Ah non, on peut pas, mais sauf à être dans le cas que je lisais. Oui, oui, c'est vrai. Je vais la rencontrer, puis on rêve, et ça, on part dans le monde du rêve. Et comment faire pour arriver, quand une fois dès qu'on est avec quelqu'un, on est à la réalité. Non mais ça peut décevoir, oui, c'est vrai, oui. Je crois que je trouve que passer du rêve à la réalité, je crois que c'est l'histoire de toute une vie d'abord. Et de dire qu'au fond, que passer du rêve à la réalité, c'est et de dire, c'est aussi dans une dimension de foi, dans cette réalité, dans cette humanité-là dont je suis tombé quand même amoureux, et l'autre aussi, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé, d'analyser ça, de dire que pourquoi est-ce que ça a réveillé quelque chose en moi. Et si je n'imagine que la femme rêvée à travers la jeune fille que je tiens dans les mains, que je n'imagine que... Il y a quelque part d'abord un manque de respect pour l'autre, parce qu'on n'est pas vraiment avec l'autre, mais surtout c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter de rêver, arrêter de prendre ses rêves, de rester dans un monde virtuel, de rester dans un monde virtuel qui fait qu'on n'aboutit à rien. Mais de se dire, s'il y a quelque chose qui émerge, ben, d'abord, donc on a vu le temps de l'intelligence, hein, c'est le temps de la raison. Il est très important qu'on mette des mots sur les défauts de l'autre. On est fait tous de creux de bosse, que ce soit celui qui arrive jamais à l'heure, que ce soit celui qui est radin un peu ou beaucoup, celui qui oublie tout, celui qui pense qui est trop organisé et qui le fait. Bon, il y a toujours des choses. Il faut simplement se poser la question, est-ce que je peux vivre avec? C'est tout. Est-ce que je peux vivre avec ces défauts? Ou pas? Et pour le coup, il n'y a que vous qui puissiez répondre. Mais ce n'est pas en restant dans le rêve d'une relation, d'une idylle, d'un prince charmant, le prince charmant qui vient vers... Voilà, il y avait une pub, un jour, un inconnu vous offre des fleurs. Vous n'avez pas vu cette pub-là, non? Alors, moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, vous me direz, c'est peut-être un peu normal. Mais bon, toujours est-il que voilà, c'est pas ça, c'est le rêve, ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'amour, c'est quelque chose qui se construit. On a dit, c'est pas un état, c'est un acte. Donc, oui. Ah, quand on est dans le cadre d'une incertitude. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on fait la différence entre une question de timing et une question de personne. Premièrement, si on voit, donc on a une incertitude, on n'est pas face à la proposition de l'autre, ou soi-même on n'est pas très certain des sentiments qu'on peut recevoir, et je crois beaucoup au travail de l'intelligence, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui veut se poser. Déjà se poser, de prendre un temps off, de prendre etc. pour dire voilà, il y a peut-être quelque chose qui commence, peut-être pas, mais qu'est-ce qui me fait dire que c'est quelque chose qui commence? Qu'est-ce qui me fait dire? Et je pense que c'est ce qui va permettre de répondre, c'est le temps de l'amitié. et de dire à l'autre, écoute, tu m'as dit ça, moi je te propose le temps de l'amitié. Je ne suis pas encore au temps de l'amour. Voilà, peut-être ça viendra, peut-être ça ne viendra pas. Mais je te propose le temps de l'amitié. Et je te propose le temps de la connaissance mutuelle. Et ce qui va faire sortir de l'incertitude, c'est la connaissance mutuelle. Et donc l'amitié. Et connaître l'autre, parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est d'abord le temps de la connaissance mutuelle. Oui, vas-y. Parle bien fort. Oui. Ah, il y a la quoi? Non, tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc, du coup, il y a la concurrence. Non, mais. Ouais. Il n'y a pas tellement de temps que ça. Mais voilà, ben, justement, moi, la concurrence. Mais merci pour tes questions pertinentes. Parce que. C'est ce qui est vrai, je veux dire. Et j'allais dire qu'il y a plus de filles entre guillemets, pardon mesdames, mesdemoiselles, mais que de garçons sur le marché. Du coup, c'est vrai que, dès qu'on voit un type bien, etc., il peut y avoir le risque de se précipiter. Et du coup, je pense que, mais en même temps, je trouve que c'est pas un service de rentrer là-dedans. Et c'est pas un service et de dire à l'autre, parce que si l'autre va tout de suite voir à la concurrence, ben voilà où est l'attachement. Ça veut dire quoi notre relation? Je veux dire, là encore, c'est la course en avant. Alors, c'est le premier qui va faire sa déclaration. Ça veut rien dire. Même soi-même, si on voit ça, on se dit, mais. On voit que ça n'a pas de sens, quoi. Ça répond à peu près à la question. Justement, il faut lutter contre ça, dire je ne céderai pas à ça. Ben voilà, je te propose le temps de l'amitié. Ben, si tu pars, tu pars. Ben voilà, c'est tout. Ben, c'est clair. Voilà.